Vous écoutez
RMC. RMC, l'Afterlive.
Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous et bienvenue au Groupama Stadium de Lyon. On va se régaler ce soir parce que deux équipes en forme s'affrontent. L'équipe de la saison, le Stade Brestois, et l'équipe de la deuxième partie de saison, l'Olympique Lyonnais. Avec pour vous accompagner, comme tous les dimanches, Jeannot Rességuier, la voix du foot sur RMC. Salut Jeannot.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir à tous.
Le régional de l'étape, Edouard G, notre correspondant à Lyon. Salut Edouard.
Bienvenue à vous Jean-Louis et Jeannot. Et bonjour à tous.
Merci Edouard de nous avoir ouvert les portes comme très souvent le dimanche, hein, parce que Lyon, on l'aura fait 10 fois cette année. Hein. Mais pas toujours dans le même contexte. Là, tu souris, là, il fait beau, là, tout se passe bien, là, le club est content de nous parler. Rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 9 mois.
Hein. 54 000 personnes qui vont être au stade ce soir, record en championnat, il fait beau, magnifique, formidable.
Et comme tous les dimanches, Kevin Diaz est là pour représenter la Dream Team RMC Sport. Salut Kevin.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
On va tout vous dire sur cette rencontre, vous décrire l'ambiance qui va monter dans les minutes qui viennent. Et d'ailleurs, première salve d'encouragement pour Anthony Lopez et les gardiens lyonnais qui arrivent à l'échauffement. Vous allez entendre tout ça dans les minutes qui viennent jusqu'au coup d'envoi à 21h. À 20h45, pardon.
Oh, j'ai un doute. Oui, c'est 20h45.
C'est 20h45. Parce que voilà, c'est l'horaire habituel. Je sais pas pourquoi je me suis mis 21h dans la tête. L'avant-match, bien sûr, c'est sur RMC comme tous les dimanches. On est dans votre stade pour vous proposer donc la meilleure ambiance possible. Et je le disais, match entre deux équipes en forme.
But finalement signé, Lacazette au renard qui traîne une nouvelle fois. Ça aurait pu basculer pour les Nantais, mais c'est Lyon qui continue sa marche en avant.
Je vois un avantage à ça, c'est que ça nous permet vraiment de valider ou d'invalider un certain nombre de choses dans notre jeu. La valeur de nos performances passera au filtre justement du haut niveau de notre championnat. Donc c'est une chose qui est très intéressante. Ça nous permet aussi de toujours avoir des matchs de très haute intensité avec un enjeu très fort qui va ressembler à ce que sera notre dernier match de la saison. Pour ces deux raisons, je pense que c'est effectivement une bonne opportunité pour nous que d'avoir ce calendrier là.
Et Martin Satriano, l'Uruguayen qui corse un peu plus l'addition pour les Messins.
C'est évident que c'est une équipe, et on en a parlé, on a fait des vidéos sur l'animation def, l'animation off, qui n'est plus du tout la même et qui aujourd'hui forcément va nous challenger beaucoup plus que sur le match aller. Ça c'est évident. Et on est préparé à ça et en même temps c'est ce qui va faire aussi que ça va être, je pense, un match très excitant à jouer, très intéressant, un stade incroyable.
Alors on a plein de débats comme d'habitude le dimanche à vous proposer autour d'Alexandre Lacazette. Est-ce que sa longévité vous étonne? Vous pouvez nous appeler au 32-16, supporter lyonnais. Tu as rencontré un de ses proches, Edouard, qu'on entendra tout à l'heure. Et puis on va parler de Brest. Est-ce que le plus dur est déjà fait pour les Brestois au tableau? Mais encore quelques journées pour aller chercher cette place en Ligue des Champions. Là aussi, 32-16, supporter brestois. Mais pour poser le décor, faisons connaissance avec les 22 acteurs de la rencontre. Les compos, on commence par l'OL, Edouard.
Avec Anthony Lopez dans les buts, de gauche à droite, Nicolas Tagliafico, Jack O'Brien, Clinton Mata et Ashley Maitland-Niles. Donc Mata qui remplace Douillet, Kalaitatsar qui est suspendu au milieu de terrain, Nemanja Matić avec Maxence Cacré et Corentin Tolisso, puisqu'on est dans un 4-3-3. Le capitaine Alexandre Lacazette est bien là en pointe, Saïd Benrahma est là, c'était attendu. Et puis il y avait une décision à prendre, on va dire, parce qu'on sentait que les heures et les minutes étaient comptées peut-être pour Ernest Nuama. Alors quid d'Orian Cherki ou de Malik Fofana? Eh bien c'est Malik Fofana qui est le 11e larron, donc l'attaquant, l'ailier droit, on va dire, le piston droit à côté donc d'Alexandre Lacazette.
La compo brestoise, Jeannot.
Oui, pour Eric Roy, il y a la particularité de ne pas pouvoir compter sur Lala qui est suspendu. C'était jusqu'alors 28 sur 28. La première fois qu'il ne sera pas donc dans la composition du Stade brestois. C'est le Cardinal, le joueur, l'ex-joueur de Lens, qui va prendre la place dans le couloir droit. Côté gauche, Loco, ça bouge pas à la charnière avec Chardonnay le capitaine et Brassier devant le gardien de but Bizot, avec le fameux 4-4-2, Del Castillo à droite, Lesmelou et Magnetti dans l'axe, Doumbia à gauche alors que les Brestois arrivent à l'instant même à l'échauffement, et Satriano avec Mounier, un ancien lyonnais par exemple depuis très longtemps, mais qui est passé par la case olympique lyonnais, pour le côté offensif de ce dauphin du Paris Saint-Germain.
Le décor, le public, ce sera plein donc, Edouard ?
Oui, 50. Alors ce matin, on nous parlait de. On va passer la barre des 50 000 personnes. Et puis tout à l'heure, on va dire à la H-2, on nous a parlé, cette réunion pour les dernières petites infos d'avant match. Remis à jour une heure plus tard, et bien, les compteurs s'affolent d'une certaine manière, puisque presque un millier de places se sont vendues sur les dernières minutes. C'est assez incroyable. Donc le stade sera presque plein, 54 500, voire 55 000 personnes dans ce stade. Alors c'est le record en Ligue 1 cette année, mais on ne va pas atteindre les 56 000, un petit peu plus de 56 000 en Coupe de France. C'était il y a une dizaine de jours face à Valenciennes.
Je disais tout à l'heure, Kevin, on en a fait des matchs de l'OL le dimanche cette saison. Là, c'est quand même un changement incroyable. Même si certains pouvaient imaginer que Lyon allait se maintenir, même dans les pires moments, de les imaginer avec une telle fin de saison, c'était là pour le coup difficile à imaginer.
Bah, c'est une saison qu'on peut considérer d'extraordinaire dans les deux sens. Extraordinaire avec ce qui s'est passé dans les six premiers mois et là ce qui se passe depuis l'arrivée de Pierre Sage, où ce club est littéralement en train de revivre. Et on a notamment Sofiane avec nous dans Génération After qui revit également comme tous les supporters lyonnais. Et on les voit bien, que ce soit sur les réseaux sociaux ou là dans l'affluence ce soir au stade. De toute façon, il y a rien de plus beau, hein, pour te dire la vérité. C'est ce que je dis à mon président, ou c'est ce que je vivais comme joueur. Quand le stade est plein, c'est que le club va bien. Et donc, ouais, pas mal cette phrase. Et donc, du coup, quand on voit l'engouement et la ferveur qu'il y a pour un match comme ça face à Brest un dimanche soir, même si Brest fait une bonne saison, c'est quand même le signe que ce club est en train de renaître.
Tu t'es auto-félicité sur ta phrase, là, on est d'accord.
Hein. J'adore ça. Et moi, je vais m'auto-flageller parce que c'est Mounier qui est passé par Lyon. C'est Anthony Mounier. Mais c'est Mounier passé par Montpellier et les Crocodiles de Nîmes avant d'aller du côté de l'Angleterre. Non, mais écoute, c'est une histoire.
Tu n'avais pas tes protégés
chez les Mouniers. En plus, il y en a un, c'est le Brestois, et l'autre, c'est ER.
Et Anthony Mounier, il a failli jouer à Saint-Etienne.
Il a failli, oui.
Mais ça n'a pas été possible, finalement, à cause des supporters.
Ça n'a pas été possible. Kevin parlait des supporters, donc ce soir, engouement. Et on va noter quand même que dans l'année, ils n'ont jamais lâché le club. Hein, et ils ont souvent été là, les affluences.
C'est vrai, ça nous a étonnés parfois, d'ailleurs.
Oui, ils ont toujours été là. Et le pire, on va dire, c'était face à
Clermont.
Toulouse.
Ah non, Toulouse.
Non, face à Clermont, il y avait quand même 44 000 personnes. Ah oui. Mais Toulouse, au mois de décembre, là, c'était au moment où Lyon était pour la 11e fois dernier. Bah, il y avait 36 000 personnes à peine un après-midi. Derrière, voilà, ça monte petit à petit.
3-0, on les a relancés aussi.
Voilà, c'est à partir de ce moment-là. Hein, alors, il doit y avoir plus de 36 777 personnes, parce que c'était le nombre exact de personnes présentes, qui disent j'y étais. Hein, parce que maintenant, il peut y en avoir 100 000 ou 200 000, mais en tout cas, j'ai le chiffre exact. Il y avait 36 777 personnes qui y croyaient à ce moment-là encore, alors que l'OL, rappelons-le, avait 7 points. Nous étions au coup d'envoi de la 15e journée.
Et ce soir, si Lyon gagne, les Lyonnais arrivent à l'échauffement. Hein. Vous allez entendre la musique et les encouragements du Groupama Stadium. Si Lyon gagne ce soir, Lyon est 7e hein, du classement. Alors évidemment, la journée est tronquée, il y aura d'autres matchs encore, mais quand même, c'est significatif de cette remontée au classement et de cette fin de saison alléchante, et avec en plus la finale de la Coupe de France.
Deuxième partie de saison à égalité avec Brest. Hein. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est complètement transformée depuis le début de l'année 2024. Derrière le PSG, ok, comme les Brestois dans le classement global, mais ça prouve quand même qu'il s'est passé quelque chose ici à Lyon en ce début d'année 2024.
Et puis alors, en cas de victoire brestoise, là le matelas avec la 5e place et donc la première place non qualificative pour la Ligue des Champions, ce serait encore plus énorme. Ce serait près de 12 points d'avance pour les Brestois sur Nice. Ça couronnerait leur saison exceptionnelle.
Et ça
filerait
un coup de boost aux travaux, peut-être, parce qu'ils se sont quand même lancé le défi d'essayer d'avoir la Ligue des Champions à le blé. Donc on ne sait jamais, on verra bien.
Ça paraît très compliqué. On était sur la remontée lyonnaise. Edouard, selon toi, elle est matérialisée par un nom, c'est Pierre Sage. Ou il y a eu aussi beaucoup d'autres choses autour.
Un chiffre, 60 millions aussi, peut-être.
C'est l'investissement mercato.
En fait, il y a eu un alignement de planètes extraordinaire au mois de décembre, puis au cours du mois de janvier. Il y a eu les joueurs, à un moment donné, ont dû se dire on en est au quatrième entraîneur, c'est peut-être à nous de faire quelque chose. Les langues se délient, elles s'étaient déliées d'ailleurs avec toi. Concernant Fabio Grosso, qui était là pour, comme on dit, tuer le groupe quelque départ, il voulait, c'était lui le staff italien qui était là pour tuer le groupe, et vous allez marcher comme on vous le dit. Ben finalement à la trique ça ne marche pas. On en parlera avec Alexandre Lacazette parce que c'est la clé à ce niveau-là, c'est de donner de la confiance aux joueurs. Jeannot, tu as parlé du mercato, hein, c'est 56 millions plus total 30 millions en plus cet été au niveau de éventuellement des bonus qu'il va falloir payer,
et une prise de conscience générale du général, club
exactement général, et puis les supporters qui étaient toujours là parce qu'ils ont eu vraiment peur qu'il y ait ce naufrage industriel. Il y a eu aussi les employés qui étaient allés à l'entraînement en disant bah, pensez à nous aussi les joueurs, et puis voilà, s'il y a eu un certain nombre de choses, et puis bien évidemment le staff autour de Pierre Sage qui est calme, qui est serein, et puis qui est par exemple c'est cette semaine Mama Baldé en conférence de presse qui nous en parlait parce que lui aussi fait des choses maintenant, hein, alors que souvenez-vous face à Lille il y avait le public qui lui disait à Chevalier sois sympa, laisse marquer Mama Baldé. Et bien il y a un travail de l'un des adjoints, Damien Della Santa, qui travaille mentalement avec les joueurs pour leur refaire prendre confiance et conscience de ce qu'ils ont, peut-être aussi de leur posture devant le but. Voilà, donc ça fait un certain nombre de petites choses. Et puis il y a aussi un Nemanja Matić, parce que tout le monde nous en parle, c'est la personne qui sur le terrain équilibré tout le monde, et puis dans le vestiaire qui a équilibré, et puis qui dit les choses comme il faut les dire en anglais.
Et du coup tu m'as pas parlé de Pierre Sage.
Si, j'ai dit qu'il a mis en place. Si, non, mais en fait, il a mis en place tout ça par son discours aussi, ouais. son côté calme. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi je le dis souvent, que je connaissais avant, mais je le retrouve tel quel en conférence de presse. C'est quelque chose de
Kevin aussi,
dingue.
Tu l'apprécies bien.
Ouais. Et c'est quelque chose de dingue.
C'est difficile quand même de ne pas l'apprécier au vu du travail, au vu du sérieux, du calme qu'il dégage. Hein. C'est quelqu'un qui est assez connu dans le football amateur, ça je l'ai déjà dit, football amateur au niveau national, puisqu'il était adjoint d'Abi Bey, et qui a un jeu, moi je dis souvent disons qu'on tend souvent les entraîneurs français un peu à l'ancienne pour certains en tout cas, mais ce soir on a deux entraîneurs français qui réussissent bien avec des profils et des parcours très différents. Le problème c'est qu'en France on vous colle souvent une étiquette. Alors Eric Roy c'était un directeur sportif, il n'avait pas été entraîneur depuis longtemps, donc c'est vrai que moi y compris on pouvait être surpris de le voir nommé à Brest, mais on a laissé la chance au produit et il est excellent. Pierre Sage, il avait l'étiquette entraîneur plutôt adjoint, plutôt football national amateur ou alors responsable d'académie, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, on voit que ce genre d'entraîneur comme Francaise, mais également comme Stéphane, comme Le Bris, y a des entraîneurs en France qui ont du talent. Encore faut-il que les dirigeants soient capables de reconnaître ce talent et surtout de leur laisser la chance d'entraîner.
Et c'est ça.
Après, il va y avoir l'histoire du diplôme, hein, parce que ça, on pourra
c'est un scandale.
Le mettre de côté, puisqu'il y aura une réunion avec notamment l'UNECATEF début mai, où on a demandé au directeur technique de venir. Oui, mais sauf que il n'a pas les prérequis, il va être pris, décision de la DTN, et au niveau de l'UNECATEF, au niveau des autres entraîneurs, on dit pourquoi c'est pas le droit.
Et donc, quelque part,
il faut revoir peut-être ou reconsidérer l'attribution des diplômes et de fait de l'ouverture aux diplômes, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est connu et reconnu dans le milieu du foot.
Pardon ?
Fais vite, vas-y.
Non, j'allais dire, Jeannot, juste, là, c'est même pas quelque part. C'est à un endroit très précis. Il faut s'asseoir autour de la table et remettre en question le système d'attribution.
C'est ce que j'étais en train d'expliquer.
Ouais, mais je veux dire, c'est
de façon globale, pas que
t'es obligé. Mais t'es obligé.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
20h18 au Groupama Stadium de Lyon. On est donc à moins d'une demi-heure du coup d'envoi de Lyon-Brest avec Jeannot Rességuier, Edouard G, Kevin Diaz. On est en direct de vos stades comme tous les dimanches sur RMC pour terminer en beauté le week-end de Ligue 1. Week-end amputé de trois rencontres qui auront lieu ultérieurement parce que la semaine prochaine, grande semaine européenne bien sûr sur RMC avec les matchs retour du PSG, de Marseille et de Lille. On vous prépare plein de surprises tout au long de la semaine. On est sur Lyon-Brest et notamment sur Alexandre Lacazette. Edouard, on va parler de sa longévité, on va parler aussi de sa deuxième partie de saison. D'ailleurs, difficile de se prononcer. Est-ce qu'il est responsable de la deuxième partie de saison réussie des Lyonnais, ou est-ce que c'est juste la conséquence d'une équipe qui marche bien? Bah, ça fait que la Cazette marque aussi. Voilà, c'est un peu la poule et l'œuf dans l'histoire. En tout cas, Edouard, t'as pu rencontrer un de ses proches, Enzo Real, donc qui a joué avec lui, qui est un ancien joueur de l'OL,
ouais, de sa même génération, 1991. C'était une grande génération à Lyon qui irriguait l'équipe de France qui est championne d'Europe en 2010. Donc il y a Timothée Kolodziejczak par exemple, Clément Grenier, Sébastien Faure qui joue maintenant à Limonest en National 3, et Enzo Real qui lui joue à Gol FC. Vous savez, c'est le club de la Glo qui est en National, issu de la fusion d'un certain nombre de clubs, notamment à partir de Chasselet. Et il est proche, bien évidemment, ils ont vécu l'un avec l'autre pendant une dizaine d'années à la formation. Lui venait de Vénissieux, ouais, et à la Cazette du 8e. Et donc je l'ai rencontré cette semaine et il m'a raconté tout plein d'anecdotes, notamment quand il était jeune, c'était le dernier au Léger Boucher. Léger Boucher, c'était un test physique, ah, vous savez, où il faut tourner. Et imagine-toi.
Comme le test Cooper.
Exactement, c'est okay. Comme le test Cooper. Et bien, il était le premier à s'arrêter avant les gardiens de but. T'imagines, Jean-Louis? Tellement il n'avait pas de physique à ce moment-là. Et comme il me dit, une fois au retour de la Guadeloupe, parce que c'est un Guadeloupéen d'origine, donc il allait dans sa famille, et bien, il est revenu transformé. Vous savez, c'est 16-17 ans, c'est l'âge où on s'affirme au niveau du corps. Et bien là, il est revenu plus musclé, il est revenu avec plus de cop, plus de technique, plus d'assurance, et puis il a commencé à faire son trou. Mais à ce moment-là, il était barré par un certain Yannis Taffer, qui était numéro 9, et donc il jouait sur le côté. Alors la petite histoire dit qu'il avait le même agent, Yannis Taffer, que Karim Benzema, qui était juste derrière. Mm-hmm. Et il fallait un petit peu ménager, préparer le terrain, et puis ménager un peu l'agent, vous voyez. Et donc c'était Yannis Taffer qui était numéro 9, voilà pour les petites histoires. Et donc il jouait sur le côté. Et là, bah, comme les autres, il est bluffé par le parcours et tout ce qu'il fait cette année.
Et ben, on peut écouter Enzo Real qui parlait aussi de son évolution dans le jeu à Alexandre Lacazette.
Par exemple, un cafouillage dans la surface, ben, il est capable de le transformer en but, il est capable de marquer en taclant aussi. Et avant, ben, c'était plus des courses en profondeur, c'était plus des buts en dehors de la surface. Et aujourd'hui, c'est devenu, en plus d'être ça, un joueur de surface et un renard. Il n'avait pas forcément ça quand il était plus jeune, quoi.
Avant, il marquait par son placement, par son talent, et maintenant, il marque par son placement. C'est une autre formule d'Enzo Real qui résume un petit peu ce joueur. Il nous parle aussi de l'aspect protection de balle. Il dit, si t'es défenseur et que t'es sur lui, tu t'enroules autour de lui et c'est impossible. Il va faire des fautes et donc te provoquer une remontée du bloc, te faire des coups francs. Voilà, c'est un homme désormais complet en plus de son rôle de capitaine.
Kevin, c'est l'évolution un peu logique d'un avant-centre, ce qui est décrit là. Avec l'âge, on devient un peu plus renard des surfaces.
Oui, c'est sûr que Alexandre Lacazette, il a réussi à bien s'adapter à ses qualités. Hein. Tu parlais d'un joueur qui était pas très bon, Edouard, dans les tests physiques en jeune. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le meilleur dans les tests physiques non plus. Il a pas vraiment le profil de joueur à répéter les efforts à très haute intensité. Par contre, il a la technique, il a le placement, il a la roublardise et surtout, il aime marquer des buts. Après, moi, je vais pas vous cacher, hein, c'est pas mon attaquant préféré, Alexandre Lacazette, ni au départ à Lyon, ni même, surtout pas à Arsenal, même si il arrive toujours à jouer pour l'équipe, et ça, j'aime bien l'esprit qu'il a d'être quand même un buteur, mais toujours collectif, et il sait aussi faire jouer les autres, et c'est ce qui lui sert aujourd'hui, notamment dans sa fin de carrière.
Quand tu regardes les stats de Lacazette avant 2024 et depuis janvier, alors outre le triplé contre Toulouse et le doublé contre Lorient avec un pénalty, il met 7 buts. Ouais. Il met 7 buts depuis janvier 2024, mais des buts importants contre Rennes, contre Marseille, à Montpellier, à Toulouse, à Nantes. Des buts qui ont de l'importance et surtout dans la régularité. 19e, 20e, 21e, 23e, 26e, 28e journée, c'est là où on peut-être ressentir justement la différence d'un attaquant qui aujourd'hui est 3e meilleur buteur. Alors loin derrière Mbappé, 24 buts, mais à 2 unités de David, le Lillois.
Les Lyonnais sont il bluffé par la longévité de Lacazette. On accueille sur RMC Floris au 32-16. Salut Floris.
Ouais, salut les gars.
Salut Floris.
Il t'impressionne le général? On continue de l'appeler le général Lacazette d'ailleurs.
Oui.
Bah, mais bien sûr qu'il est impressionnant. C'est même plus le débat comme quoi c'est une légende du club, mais c'est phénoménal ce qu'il est en train de faire. C'est phénoménal. Depuis son retour, on ne s'en rend pas compte. Parce que forcément, on n'est pas. on joue pas les premiers rôles et compagnie, mais le, depuis qu'il est de retour, son retour, il est phénoménal. On ne se rend pas compte, mais il est peut-être parti pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'OL, qui eut cru qu'un jour c'était possible. Donc c'est parfait, loin de là, mais s'il reste deux ans à ce niveau, il passera meilleur buteur de l'histoire de l'OL.
On ne se rend pas compte. 166 buts, la Combe 149, Fleury-Linalo 222.
Voilà. Oui, on est à 177. Oui.
177 tout compris, voilà.
En revanche, Fleury, j'ai jamais entendu un Lyonnais avec un accent comme ça.
L'accent de tête, forcément, on ne peut pas le changer, sinon.
mais tu es supporter lyonnais depuis toujours.
C'est ça, exactement, depuis tout petit.
Ouais, c'est beau. Comment tu vois la fin de saison entre la Coupe de France, les gros matchs en championnat, hein. Pierre Sage d'ailleurs a été habile dans sa réponse, hein, en disant la meilleure façon de préparer la Coupe de France, c'est de bien gérer ce gros enchaînement, puisque ils vont jouer les premiers du classement. Comment tu vois cette fin de saison?
Ben vraiment, vraiment bien, et surtout excitant à jouer. On a enfin quelque chose à jouer. Mais là, le truc qui me fait peur ce soir, autre notre niveau et compagnie qui est vraiment bon depuis quelques temps, c'est les résultats des autres. On sait très bien que nous, dès que les résultats des autres équipes sont favorables pour nous, derrière, c'est catastrophique. Donc j'espère que ça va changer, que ce soir, on va continuer sur notre lancée, sur notre niveau et aller chercher la victoire.
Moi, je vois bien quand même les Lyonnais faire un bon match ce soir. Alors, on va parier après, je crois, Jean-Louis, je trouve quand même que cette équipe, elle a une belle dynamique. Moi, j'ai envie de voir Fofana titulaire. C'est rare, hein. Je sais pas, c'est pas la première fois qu'il est titulaire, mais
c'est pas la première fois, mais il avait été face à Lorient en milieu gauche. Il avait pas été face à Rennes quand il y avait eu le 3-0, voilà. Là, mais c'était dans un poste hybride à Lorient.
3-5-2, ouais.
Ouais, voilà, c'était vraiment là. Et Pierre Sage, ça fait partie de ses qualités, hein. Il a reconnu qu'il avait fait une erreur. Il l'a reconnu publiquement sur le coup. Voilà, c'était pas son poste. Mais lui, là, l'entrée qu'il fait à Nantes, voilà, son but et ce côté super. Non, seul,
j'ai envie de le voir comme titulaire.
Et tu vas le voir comme titulaire. Ça tombe bien. Merci Floris d'être venu.
Question,
oui, vas-y.
Question à Jeannot, l'invité, s'il a l'info ou pas par rapport à Mangala, que ça fait un petit moment qu'on ne le voit pas autour de blessure, est-ce qu'il en sait plus ou pas, parce que c'est quand même un joueur important et qu'on aura besoin de lui sur cette fin de saison.
Aurel Mangala,
ouais.
Il était un petit peu blessé à un moment donné, et puis là, visiblement, Pierre Sage lui préfère Corentin Tolisso. Pardon ?
Il est sur la feuille de match.
Par
rapport à blessure,
non, mais après, il y a.
Bon, on va se renseigner s'il n'y a pas une blessure.
Il est sur la feuille de match. Après, c'est quelqu'un qui, je pense, dans l'esprit de Pierre Sage, peut apporter quelque chose de différent en cours de match. Et on a beaucoup insisté sur les statistiques très positives de l'Olympique Lyonnais à partir de la deuxième période. Et à partir du moment où il fait rentrer des joueurs qui sont, pour des offensifs, en réussite. Et Mangala, pour justement rééquilibrer un petit peu le milieu de terrain quand ça pique un peu du nez.
Voilà. Par contre, Floris, c'est Edouard qui a répondu d'abord, alors que tu voulais Jeannot, c'est pas grave.
Oui, c'était les deux. Je savais pas, t'as dit Edouard qui était là, c'est pour ça.
Bon. FC7 en reconstruction ou pointe courte?
Ah non, FC7, Jeannot.
Ah bon, ça va.
Floris, merci d'être venu.
Le coach est passé en plus. Le coach est passé. Coach Courbis, FC7.
Oui, il y est passé effectivement. Mais bon, oui, c'est quand même un club historique dans le titre de champion, dans le doublé, voilà. Et faut qu'il remonte.
Le premier club de France à avoir fait le doublé Coupe Champion.
Exactement. Allez, le bonjour du côté du FC7. Ciao.
Salut Floris, à bientôt.
Et allez l'OL. Ciao les gars, bonne soirée.
Salut Floris. Je croyais qu'il avait dit allez l'OM avec son accent.
Mais quand est-ce que Roland a entraîné 7?
Non, il a participé à cette dernière saison.
Ah oui, récemment, d'accord.
Ouais, tout à fait.
Ah, mais ce n'est pas très officiel
non.
Tout ça.
Non, c'est ça. Non, mais il donne des coups de bas comme il fait avec Cholet cette année. Il reste au.
Tout à fait.
C'est plus de l'actualité.
On embrasse Coach Courbis, bien sûr. J'étais énervé contre Luis Enrique cet après-midi. Je ne sais pas si vous avez entendu ça sur RMC. Bon, je pense que ça n'était pas que cet après-midi. Mais bon, il va être en grande forme aussi toute la semaine. Dans une seconde, Brest. Est-ce qu'ils ont fait le plus dur, les Brestois? Grande saison, avance au classement. Ou est-ce que justement c'est dans cette dernière journée-là qu'il faut faire attention? 32-16, à tout de suite. On est en direct du Groupama Stadium ce soir pour Lyon-Brest.
RMC, l'After Live.
Jean-Louis Tour.
20h30, un quart d'heure avant le coup d'envoi de Lyon-Brest. On est en direct du Groupama Stadium. Edouard Jeannot Rességuier et Kevin Diaz. Le match en intégralité, bien sûr, comme tous les dimanches. On suivra aussi de la moto avec le Grand Prix des Amériques à partir de 21h. Et on va parler de la saison du Stade Brestois. L'équipe de la saison, la révélation de la saison. Impressionnante équipe et surtout qui ne lâche pas dans le temps. C'est ça qui est bluffant avec cette équipe, au point que que la Ligue des Champions leur tend les bras plus que jamais. Alors soit directement dans une des trois premières places, Brest a quand même 4 points d'avance sur Lille, le 4e, soit même en finissant 4e, et là dans ces cas-là il y aurait tour préliminaire ou qualification directe si le vainqueur de l'Europa League est qualifié grâce à son championnat. Et là le matelas est de 9 points avec Nice, donc pour les Brestois tout va bien. Kevin, ils te surprennent encore, ces Brestois?
Oh bah maintenant on n'est plus vraiment surpris, hein. On était surpris disons jusqu'à la trêve de les voir là. Maintenant c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui est quand même sur ce que moi j'appelle la Wonder Season, c'est-à-dire c'est la saison un peu merveilleuse où tout leur réussit, où ils sont excellents sur le terrain. Ils avaient déjà plutôt bien fini la saison dernière et puis ensuite ils ont réussi à enchaîner sur une très très bonne première partie de saison. Et là ils arrivent à maintenir avec surtout un niveau de jeu très intéressant avec des joueurs comme Les Melou qui ont été très critiqués notamment à l'époque de Nice, mais qui a depuis bien progressé, et surtout avec un entraîneur qui a réussi à parfaitement équilibrer cette équipe avec un très bon gardien, un avançant Steve Mounier qui n'est pas forcément le meilleur buteur mais qui est quelqu'un qui travaille beaucoup pour l'équipe. Donc voilà, c'est une équipe qui a même réussi à faire de Kenny Lala un joueur enfin régulier.
Ouais, bien sûr, de Kenny Lala, mais de tous en fait. C'est ça qui est, tu le disais, hein, mais dans ces cas-là, quand les planètes s'alignent, tous les joueurs ont leur meilleur niveau, peut-être même de leur carrière. Hein. Il y en a certains, on les reverra peut-être pas aussi forts, je sais pas. Sublimés par le collectif.
Ah ben c'est clair que là, Lorenzi, le directeur sportif, à la fin de saison, il va avoir du boulot, hein, parce que là, il va avoir les agents, les entourages, tout le monde qui va vouloir profiter de cette saison, surtout avec une qualification probable ou possible en Ligue des Champions. Et le souci, c'est toujours ce qu'on dit, hein. C'est pas une lapalissade. Moi je pense que le plus dur ce sera de confirmer la saison prochaine, bon déjà de se qualifier pour la Ligue des Champions maintenant, d'aller jusqu'au bout, et surtout ensuite de confirmer, parce qu'on voit que il y a des clubs qui ont fait des saisons comme ça et qui la saison suivante ont joué le maintien.
Et de ne pas trop perdre au mercato.
Ils ont un coup de mou, hein, en ce moment. Partout contre Lille. Ils gagnent difficilement à Lorient. 4-3 contre Metz en se faisant reprendre deux buts dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Même si on considère qu'aujourd'hui, c'est un véritable test, hein, par rapport à l'équipe en forme de la deuxième partie de saison. Cette équipe-là, elle reste, selon moi encore, Kevin, surprenante par sa régularité. C'est ça qui est à la limite. Quand tu es sur la première partie de saison, tu te dis ouais bon pourquoi pas. Ils font des coups, ils réalisent des choses intéressantes, ils perdent pas des matchs qu'ils auraient perdu la saison d'avant, et là ça s'est aligné un peu plus sur la deuxième partie, et ils ont vraiment réussi à impressionner. Donc dans la durée, s'ils arrivent à accrocher la Ligue des Champions, chapeau Eric Roy et chapeau surtout au groupe de Brest.
Oui, mais ce soir, s'ils s'imposent à Lyon, on va pas dire que c'est une surprise.
Ah bah non.
Donc, mais c'est une confirmation.
C'est le premier historique d'ailleurs, parce qu'ils n'ont jamais gagné ici. Et à noter que Lyon, parce qu'on vante les mérites de la dynamique actuelle, c'est quand même que 2 victoires à la maison. Hein. Et la dernière, c'était face à Nice le 16 février dernier. 4 victoires pour l'instant à la maison. Donc la dynamique lyonnaise est surtout à l'extérieur. Elle se voit aussi avec la Coupe de France, avec ses 3 matchs gagnés, dont un au tir au but, la qualification face à Strasbourg. Ici, mais quand même, c'est difficile au Groupama Stadium pour l'OL. 1-0 face à Marseille, 1-0 face à Nice, 1-0 face à Nantes.
Et pour revenir aux Brestois, ce qui est beau, hein, dans ce que tu décrivais, Jeannot, c'est qu'ils gagnent même une fois que l'effet de surprise est passé. Ça, c'était le cas sur la première partie de saison. Là, maintenant, ils sont attendus comme une équipe du top 3. Ils arrivent quand même à aller
gagner. Et ils sont costauds, et ils sont solides, et ils restent créatifs, et ils restent efficaces, quoi, surtout.
On parie tout de suite sur ce match, et on vous proposera vraiment les quelques minutes de l'avant-match en intégralité, parce que là, avec le stade plein, ça va être magnifique. On parie.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Avec Johan Bredov, notre expert en paris sportif. Salut Johan.
Salut Jean-Louis, salut Kevin, salut à tous.
Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé sur ce match? En plus des cotes normales, bien sûr.
Ben oui, les cotes normales sont à l'avantage de Lyon. 2-0-5 la victoire lyonnaise, 3-35 le match nul, 3-70 la victoire de Brest. Peut vous proposer la grosse cote boostée, c'est Brest qui marque au moins un but. Ça passe de 1,36 à 2, 10 euros de mise maximum, c'est intéressant. Moi ce que j'aime bien, c'est Lyon ne perd pas avec les deux équipes qui marquent. Je m'attends à du spectacle, ça permet de doubler la mise, ou alors voir carrément le match nul à 3,35. Kevin, on joue quoi?
Écoute, j'aime bien cette cote boostée, hein, pour te dire la vérité.
Brest qui marque un but.
Allez, je vais dire la victoire de Lyon. Je vais jouer quand même cette cote de 2, même si la victoire de Brest avec une grosse grosse cote, ça me disait aussi, mais je vais rester sur mon pari initial, la victoire de Lyon.
Et elle a 2-0-5 la victoire de Lyon, et si tu la joues avec les deux équipes qui marquent, hein, si tu vois le but de Brest, ça passe à 3,90.
Eh, c'est pas mal, merci Johan, rmcsport.fr pour les conseils de la Dream Team.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le Groupama Stadium est plongé dans le noir. Dans quelques secondes, l'entrée des équipes, l'hymne de l'Olympique Lyonnais. Vous allez entendre tout ça dans une seconde sur RMC, car on est en direct du Groupama Stadium ce soir pour Lyon-Brest. À tout de suite.
RMC, l'Afterlife.